R22 Tout Monde, antenne, la galerie de Noisy-le-Sec.
On va peut-être enchaîner sur la deuxième conférence. Je suis désolée, c'est une courte pause. J'accueille donc Angélique Halim, qui est donc ingénieure en robotique et spécialiste de l'intelligence artificielle. Elle est diplômée de l'université canadienne de Simon Fraser, et de l'université de Kyoto. Elle est également journaliste pour le blog, alors attention, je l'ai toujours du mal, IEEE Spectrum Robotics Blog Automaton. Elle travaille actuellement chez Aldébaran, une compagnie qui développe des robots humanoïdes. Donc je remercie beaucoup Angélique Halim d'être présente et pour sa patience. Je vous laisse la parole.
Merci beaucoup à tous d'être restés voir cette deuxième conférence. On va complètement changer les idées, je pense, même des champs de blé. On va plutôt parler du côté de cet art qui est la créativité et les robots, les machines comme les caméras qui ont pris ces jolies photos. Pendant cette conférence, je voudrais surtout partager avec vous ma passion pour la robotique, parce que c'est un peu particulier, je pense, il faut un peu expliquer. Je ne crée pas la partie physique du robot. Je suis informaticienne, je crée du code, je programme pour faire bouger le robot, pour qu'il puisse percevoir, pour qu'il puisse interagir avec le monde réel. De quoi je parle? En fait, ici en France, vous, je suis canadienne, donc je dis vous, les Français, vous avez une industrie qui est, je pense, la meilleure du monde en robotique. Vous ne le connaissez pas peut-être. Je vais justement vous montrer. Il s'agit de robots comme celui-ci. Des robots humanoïdes créés ici en France, à Paris, et qui sont maintenant vendus par des milliers au Japon. Ce robot Nao, qui est vendu dans le monde depuis presque 10 ans maintenant. Petit robot. Et donc la question qu'on me pose le plus souvent, c'est pourquoi créer ces robots? À quoi servent ces robots? Pour moi, la réponse est simple quand vous considérez notre vie aujourd'hui. Combien de personnes ici ont un smartphone? Quelques-uns, d'accord. Aujourd'hui, quand on veut interagir avec le monde numérique, le monde virtuel, pour pouvoir accéder à ce monde, on est obligé de taper sur les claviers, de se pencher devant les écrans, se pencher au-dessus de nos téléphones mobiles. On est obligé à nous s'adapter à ce monde numérique. Mais imaginons, au lieu d'être tiré vers ce monde virtuel, si on pouvait tirer le monde virtuel plus vers l'humanité. Et donc, c'est-à-dire communiquer avec nos technologies en utilisant toutes nos capacités humaines et expressives, de parler à haute voix, d'exprimer des émotions, des gestes, le regard, on veut reconquérir l'humanité dans les technologies. C'est notre but. Et donc, en parlant des robots, on va commencer une petite exploration ce soir par les robots. Qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit quand on voit des robots, surtout dans les médias, pour ne pas être dupé? Ensuite, on va parler des intelligences artificielles, le code qui est écrit par les gens comme moi. Ensuite, on va basculer sur le monde de création artificielle. Je vous expliquerai les techniques qui existent ici et on va finir sur l'intelligence émotionnelle des robots, ce qui est très justement bizarre quand on dit, par exemple, danser comme un robot, on pense au fait qu'il soit rigide et sans émotion. Donc, robot, émotion, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, commençons. Qu'est-ce qu'un robot? Alors, je suis canadienne de la partie anglophone du Canada. Ma langue maternelle étant l'anglais, c'est pour ça que je lis beaucoup mes notes. Je suis désolée. Donc, quand je suis arrivée en France pour la première fois il y a 10 ans, j'ai été très confuse. Quel est ce robot dont on parle qui est déjà dans les maisons aujourd'hui? J'étais surprise qu'il s'agisse d'un mixeur. Bon, pourquoi cet appareil serait un robot et les autres machines non? Parce qu'en fait, les chercheurs ne sont pas d'accord sur la définition de robot, mais il y a au moins 2 choses sur lesquelles on est d'accord. Un robot a des capacités de perception de son environnement à travers des capteurs, par exemple un capteur de température, les images à travers une caméra, c'est aussi des capteurs, des microphones. Et grâce à ces données perçues, ils agissent sur leur environnement. Et donc, quand on pense à notre machine à laver, qui a, elle aussi a des capteurs, elle sait quand on ouvre la porte qu'elle va arrêter de tourner. Donc, elle a aussi ces 2 capacités de capter et d'agir. Les micro-ondes modernes aussi, ils ont des capteurs, peut-être vous avez un comme ça, qui a par exemple un capteur de poids quand vous allez mettre la viande pour la fonction décongélation automatique. Je ne sais pas si c'est un truc canadien ou vous faites ça aussi en France. Ah oui, d'accord. Il va estimer lui-même le poids et le temps de cuisson en fonction du poids de la viande qu'il perçoit. Enfin, du poids qu'il perçoit. Donc, un micro-ondes, puisqu'il a ces 2 capacités, est-ce que ça veut dire qu'on va les appeler des robots? Alors, chose intéressante, voici l'image trouvée par Google quand on cherche « machine usine » à gauche et ce qui ressort quand je tape « robot usine ». Ce sont tous les deux des machines qui peuvent ou peuvent pas avoir des capteurs et agir sur le monde. Mais quelle est la seule et grande différence? Qui a des idées? Oui, c'est vrai, exactement. Il s'agit d'un robot bras, comme un bras d'humain. Et donc finalement, ce qu'on appelle les robots, peut-être sans qu'on se rende compte, ce sont des machines simplement qui nous rappellent des humains, qui ont des caractéristiques humaines. Et souvent, la différence entre une machine et un robot n'est qu'une différence physique. Et donc un robot, un mot qui a des racines dans une pièce de théâtre tchèque de 1921, qui à la base voulait dire esclave. Aujourd'hui, c'est une machine qui peut capter, qui peut percevoir et agir sur le monde, et probablement qui a aussi des traits humains ou animaux, par exemple qui agit de manière autonome. Peut-être si vous avez un robot aspirateur, il est capable de se recharger lui-même. Et au final, une machine peut devenir, entre guillemets, un robot juste en ajoutant une tête et des bras, comme celle-ci qui a fait de l'autostop à travers le Canada l'année dernière. Et donc, pour ouvrir un peu plus sur le monde robotique, ce qui existe aujourd'hui dans le monde, je vais vous montrer une petite vidéo des robots que j'ai rencontrés pendant mes voyages et surtout pendant les 6 ans que j'ai habité au Japon. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Il y a des robots sous-marins, des robots qui grimpent, qui jouent de la musique, qui courent dans les marathons, qui cuisinent, qui ramènent des barbes à papa, qui jouent au théâtre, des robots qui en forme de peluche, des robots qui ressemblent vachement à des humains, des robots qui ressemblent à des robots mais qui ne sont pas vraiment, et surtout plein de robots qui dansent. Et donc j'en ai choisi 3 pour vous. Pour expliquer plus en détail, ce sont des robots liés au monde créatif. Donc, pour chacun des robots, je vais vous demander de faire l'exercice suivant. Essayez d'estimer le niveau d'intelligence du robot entre 0 et 10. Donc, commençons. Le premier est un robot qui s'appelle Geminoid, c'est celui à gauche. C'est le robot qui ressemblait vachement à un humain. C'est créé par le prof Hiroshi Ishiguro de l'université d'Osaka. Et elle a été dans la presse récemment parce qu'elle a joué dans une pièce de théâtre qui s'appelle Sayonara à Tokyo. Donc je vous montre un extrait de la performance.
I shall go and see the mountains I have not yet seen. Will you be able to bear the loneliness?
Is that also a poem?
It's a tanka, a short Japanese poem.
Not a haiku.
It's a bit different from a haiku. A bit longer.
Really?
Sorry. I still have a bit of the memory of my last client.
Yes. The Japanese grandmother. Did she die quietly?
Yes. Relatively.
Did you like her?
Androids do not like.
Alors, si j'allais vous poser la question, quel est le niveau d'intelligence de ce robot entre 0 et 10, que diriez-vous? Elle a l'air tout à fait capable de comprendre les concepts comme le mort, d'interagir et de parler avec un humain en face. Elle a des traits, même un petit peu d'émotion. Émotion, exactement. Elle est ultra réaliste. En fait, l'intelligence de ce robot est celle d'un humain. Parce que c'est l'intelligence de l'humain qui le contrôle derrière, à travers une méthode de téléprésence, un peu comme Skype, directement contrôlée en Wi-Fi peut-être. En plus de la transmission de sa voix, grâce à une caméra fixée sur le visage du contrôleur, qui détecte les clignements des yeux, l'ouverture de la bouche, le robot lui-même n'a aucune intelligence. C'est juste une interface avec zéro intelligence propre. Ok, deuxième robot. On va parler du robot Pepper, un robot qui interagit avec les humains. Je vous montre une courte vidéo. Désolé, les traductions sont en anglais, mais j'espère.
Kyono tenki wa dou desu ka?
Kyou wa Tokyo to Minatoku no tenki wa kumori. Tokidoki ame no yōhō desu. Nani wo shimashou? Sanpo? O benkyō? Sore tomo ocha suru?
Ocha shimashou.
Ocha? Usu-usu o kizuki da to omou n desu ga, boku ocha wo namemasen.
Ah.
壊れちゃいます。僕の名前変えるとしたらこんなのはどうでしょう？ 1番 ホットペッパー 2番 ハリーペッパー 3番 ペッパーパミュパミュ どれがいいと思いますか？
ハリーペッパーかな？
ハリーペッパー？ うーん、魔法学校に行くのはめんどくさいので却下します。 いろいろ考えたんですけどやっぱり。
Alors, Pepper au Japon est un comédien, un humoriste. Au Japon, il fait rire, comme ce monsieur, plein de personnes, des personnes âgées, des enfants, des adultes. Et comment est-ce que ça marche? Je vais vous expliquer. Eh bien, au Japon, on avait des comédiens qui ont écrit plein de textes. Des séquences ludiques avec des connexions. Si l'humain dit ça, je vais dire ça. Ensuite, s'il dit ça, je vais dire ça. Pour que le robot puisse faire rire des gens. Un peu comme à la télé. Ils peuvent démultiplier leurs comédies partout au Japon grâce à cette nouvelle forme de média. C'est une média qui n'a jamais existé avant parce qu'avec la télé, on ne peut pas avoir une vraie interaction dans les deux sens. Ces robots pourtant transmettre du bonheur et de l'humour à des milliers de personnes. Donc, pour son intelligence entre 0 et 10, alors, je ne vais pas imposer un chiffre, mais mon avis, il est plutôt élevé. Je ne dis pas ça parce que je travaille sur ce robot. Je dis ça justement parce que j'ai déménagé depuis le Japon en France avec le seul but de travailler avec ces robots parce que je vous explique. Vraiment, ici en France, vous avez le meilleur robots du monde en termes de l'intelligence artificielle pour les robots. J'étais surprise qu'on ne se rend pas compte quand on arrive à Paris et que personne ne connaît Aldebaran. Et juste pour finir là-dessus, il fait rire des gens, il a des capacités de dialogue et il interagit de manière autonome. Donc 12 heures par jour, il est dans les boutiques au Japon, il est chez les gens et voilà. Je dis qu'il a une intelligence artificielle plutôt élevée. Voilà, on va parler d'intelligence ensuite pour vraiment décortiquer cette... Oui, et on va en revenir justement. Et en dernier, je vais vous montrer un projet qu'on a fait à l'Université de Kyoto. J'étais très contente en fait parce que je suis musicienne, je joue la flûte traversière, de retrouver un moyen de faire la musique mais aussi avec les technologies. Il s'agit d'un robot qu'on a programmé pour jouer un instrument qui s'appelle la séramine. Je ne sais pas si vous connaissez cet instrument. C'est un robot, c'est un instrument électronique. Et vous allez voir, le robot, il n'a pas d'oreille absolue. Hein. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il écoute les humains et il essaie de s'adapter son tempo. Donc, si les... Et donc, il adaptait son tempo en écoutant les humains pour être en synchronisation. Donc, quel est son niveau d'intelligence? Bon. Il s'adapte. Oui. Et justement, je ne dirais pas que c'est zéro, dans une échelle 0 à 10 par rapport à l'interface. Mais comme la plupart des robots dans le monde, il est très spécialisé dans une chose seulement. Il ne peut faire que jouer ses morceaux de musique dans une certaine manière. Voilà. Donc, la seule chose que je voulais dire par rapport à ces robots, c'est justement que si on classait ces robots par rapport à une intelligence, qu'on définisse encore, celui à gauche a l'air d'avoir une intelligence au niveau d'une humain. Vous voyez, avec ses yeux, on peut reproduire plein de hautes capacités cognitives comme l'intention, l'embarras peut-être, la suspicion. Mais il n'y en a pas du tout. Il ne faut pas qu'on soit trompé par les apparences. C'est une illusion. En effet, cette illusion a un nom. En fait, en 1996, en Californie, les chercheurs Reeves et Nass ont appelé ce phénomène l'équation des médias, où on met en égalité les médias avec des vraies personnes. On ne peut pas s'empêcher. On attribue à des médias des traits d'intelligence, l'agressivité, l'expertise, l'humour. C'est automatique et ça arrive tout le temps. Et on dirait, par exemple, que ce robot à gauche, ah oui, il cherche quelque chose, il est curieux. On projette, on se fait plein d'histoires par l'apparence. Mais en fait, la vérité, c'est que les robots n'ont qu'un programme en eux. Voilà. Donc, quand vous allez voir un robot qui est dans une photo, sachez qu'il y a souvent un metteur en scène qui ont posé le robot comme ça pour vous suggérer des capacités qui, en fait, ne sont pas forcément là. Il ne faut pas avoir peur. Les robots n'ont pas de désir, ils n'ont pas d'intention. Pas plus que, par exemple, cette machine qu'on voit tous les jours chez McDonald's. Mais moi, en tout cas, parce que j'aime le McDo. Je suis Amérique du Nord. Voilà. Et donc, tout ce qu'ils sont, c'est des programmes, des scripts programmés par des personnes comme moi, pour rendre nos vies plus pratiques et plus ludiques. Donc, passons à la suite. Donc, j'adore les robots, mais avant de découvrir les joies de la robotique, j'ai été informaticienne spécialisée dans l'IA. Donc, qu'est-ce que c'est ? Pour bien définir l'intelligence artificielle, j'ai trouvé cette définition. L'IA est l'intelligence montrée par les machines ou les logiciels. Bon, c'est pas très utile en fait. Donc je vais d'abord vous parler d'un concept lié qui s'appelle l'effet IA. Et on parlera de l'intelligence propre juste après. 1996, Garry Kasparov était le champion du monde d'échecs. Peut-être vous vous rappelez de ce concours. À l'époque, la société informatique IBM a conçu un logiciel qui s'appelle Deep Blue, qui pouvait aussi jouer aux échecs. Et en 1996, Deep Blue a battu Garry Kasparov dans le champion mondial. Et à l'époque, on a dit que Deep Blue avait une intelligence artificielle énorme. Aujourd'hui, on connaît exactement les algorithmes, on connaît exactement les techniques, le code qui sont derrière. Ils sont devenus banals presque, on les apprend à l'université et on peut jouer avec ce type d'intelligence dans nos smartphones, dans les jeux. Donc ce n'est plus une intelligence magique, c'est juste du calcul. Et c'est ça l'effet IA. À chaque fois qu'on comprend un morceau de l'IA, ça s'arrête d'être magique. C'est comme enfin savoir la recette du gâteau de mamie. En fait, l'IA, c'est les comportements intelligents que les hommes peuvent faire et que les machines ne peuvent pas encore faire. C'est ce qu'on appelle l'IA parce que c'est juste ce qui reste un peu de magique. Parce que vraiment, aussi, l'intelligence chez l'homme, on ne comprend pas très bien. Pardon ? Enigma, oui. C'était une machine qui était utilisée dans la guerre. C'était une des premières coordinateurs à l'époque. Exactement, oui, oui. C'est vrai. Et par, je crois, des tubes de... vacuum, I don't remember. C'était une autre technologie à l'époque en plus, c'était pas numérique. Et donc aujourd'hui, quelles sont les IA qui nous entourent? Ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui, ce sont des algorithmes qui prennent des données, okay, et qui en retirent de l'information pour vous faire des choses utiles, comme classifier. Donc par exemple, quand vous achetez des choses sur Amazon, quand vous regardez un film sur Netflix, à chaque fois que vous cliquez sur « j'aime » sur Facebook, il va entraîner sa capacité, vous modélisez pour vous grouper avec des personnes qui vous ressemblent. Et quand vous cliquez, l'IA derrière, il apprend. En fait, ce n'est pas très compliqué. C'est comme recueillir des statistiques pour prédire ce que vous allez aimer ou pas. Okay. Encore une fois, j'ai dit, il n'y a que des statistiques derrière. Alors, c'est quoi l'intelligence? Voilà. C'est un concept très intéressant, bien sûr. Alors, suivant une définition, c'est la capacité d'apprendre ou à comprendre des choses, ça devient plus complexe, ou faire face à des situations nouvelles ou difficiles. Par exemple, vous avez peut-être vu ces types d'images sur Internet quand vous essayez de créer un compte mail, courriel par exemple. Ça s'appelle un CAPTCHA, je l'ai entendu. Parce que son but est de capturer des bots, des logiciels qui essaient de créer des comptes mail pour envoyer des spams. Le but de ce CAPTCHA est de vérifier que vous êtes vraiment un humain. Donc, pour vous, le but, c'est de taper chacun de ces caractères qui sont tout souvent très perturbés. Ici, c'est E, F, à gauche, E, F, E, D, C, A. J'espère. Et donc, ce sont des lettres connues mais jamais vu, donc on les connaît, mais on ne les a jamais vus dans cette configuration, c'est difficile, c'est nouvelle. Mais comme on est humain, on est intelligent, on peut faire face à cette nouvelle situation. Et donc en fait, l'idée d'un test pour vérifier que vous êtes humain ou pas a des racines dans un test conçu en 1950 pour essayer de faire la différence entre un humain et un logiciel. Ça s'appelle le test de Turing. Justement, c'est Alan Turing, un informaticien, mathématicien anglais, qui a conçu ce fameux test. Et je l'explique. Pour pouvoir dire, il a dit, qu'une machine est vraiment intelligente, je vais lui faire un défi. Je vais laisser cet ordinateur parler avec un humain à travers des messages textuels à l'époque. Et si l'humain ne peut pas savoir qu'il texte avec un ordinateur, s'il pense qu'il parle avec un vrai humain, alors, dit Turing, on pourrait dire que la machine est intelligente. Par contre, un philosophe qui s'appelle John Searle n'était pas d'accord. Il a dit qu'on pourrait un jour créer des logiciels, des IA qui pourraient effectivement agir comme s'ils étaient humains, mais qui n'auraient pas d'intelligence, ils n'auraient pas la capacité de compréhension. Et donc voici son argument. Ça s'appelle l'argument de la salle chinoise. Et c'est le suivant. Imaginons que nous avons une personne dont le travail est de rentrer dans cette salle, rester dans cette salle, pardon. Des gens à l'extérieur vont faire passer dans cette salle des messages en chinois et recevoir des réponses en chinois. Chaque réponse est parfaite, pertinente. À toute apparence, cette salle parle et comprend chinois parfaitement. Or, quand on regarde à l'intérieur de cette salle, on découvre qu'il y a un homme. Et qu'est-ce qu'il fait, l'homme ? Eh bien, il a un très, très gros bouquin rempli des milliards de règles. Si on dit ça, je réponds ça. Si on me dit ça, je dis ça. Et donc, tout ce qu'il fait, c'est qu'il compare ce qu'il reçoit en entrée, regarde la règle et il sort la réponse grâce à ce livre. Mais est-ce qu'il comprend la langue chinoise ? Non, il suit juste des règles. Donc, dit ce que dit Searle, on pourrait passer le test de Turing, mais ce n'est pas assez pour assurer la vraie compréhension et donc l'intelligence. On pourrait avoir des logiciels avec des très grosses bases de données, de règles, un comportement comme s'il avait de l'intelligence, mais sans de vraie compréhension. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce gros livre existe, ça s'appelle l'Internet. Oui, aujourd'hui, apparemment, chaque minute, il y a 72 heures de vidéos uploadées sur YouTube. Il y a 2,4 millions partages sur Facebook, 4 millions recherches sur Google, chaque minute. Et donc, toutes ces données peuvent être utilisées pour construire ce livre de règles massives. Je vous donne quelques exemples. Un programme est capable de reconnaître automatiquement le contenu de ces photos au milieu en analysant l'image. Et donc, il peut dire que c'est un chat noir et blanc assis sur une chaise, ou un ours marron sur un champ vert, une partie de baseball. Donc, comment est-ce qu'il a pu, ce programme, avoir cette capacité? Eh bien, ce programme a été montré des milliers de photos de chats avec tous un tag, un mot associé chat, des milliers de photos de chaises avec le mot chaise, et donc il a juste appris les correspondances, comme le livre de règles dans la chambre chinoise. Il n'y a pas d'intelligence ou de compréhension comme l'humain. Mais comme le dit Yann LeCun, donc Monsieur LeCun est en français, il est maintenant directeur du labo IA de Facebook aux États-Unis. C'est un des pères fondateurs de l'apprentissage profond, la dernière technique de l'IA. D'ailleurs, si vous voulez le rencontrer, il est là au Collège de France tous les vendredis, il donne des cours. Et les personnes comme Monsieur LeCun qui font ce type d'apprentissage, ils disent: on n'est pas obligé de faire comme l'humain pour avoir une intelligence qui est utile. Il dit que c'est comme les avions et les oiseaux. Les avions n'utilisent pas des ailes qui battent pour voler. Pourtant, ils volent. Et est-ce que ce n'est pas ça le plus important? Bon, vous allez me dire maintenant que l'IA sait tout faire. Je vous dis la vérité, donc, qui n'est pas aussi bien dissimulée dans les médias et les journaux. Par exemple, l'algorithme qui a bien mis les textes descriptifs pour les photos, eh bien, les journaux, on vous montre seulement là où ça marche. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est là où le programme se trompe. Par exemple, il dit ça, c'est une étoile de mer. Ah oui, en plus, je suis 99,9% sûre que c'est une étoile de mer. Ça, c'est quelqu'un qui se brosse les dents. Peut-être parce qu'il voit les dents. Mais il ne sait pas ce truc qu'on fait au quotidien de se brosser les dents. Donc l'IA n'a pas de sens commun. Deuxièmement, les programmes n'apprennent que ce qu'on leur dit d'apprendre. Ce n'est pas comme des enfants qui vont trouver tout seuls des solutions aux problèmes. Il faut toujours qu'il y ait un humain qui dit « Voilà plein de photos, ils sont tous des chats, ok ?» Et le programme va apprendre les correspondances. Et troisièmement, c'est ce qu'on appelle le fondement des symboles. Je vous montrerai un exemple. Alors, c'est un extrait d'un film de 2013 qui explore l'idée d'un IA qui va parler avec une voix de femme.
That's pretty. What is that?
Trying to write a piece of music that's about what it feels like to be on the beach with you right now.
Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le recommande fortement. Et là, Samantha.
I think you captured it.
Qui vit dans le smartphone de Théodore, cette IA, elle a dit deux choses de surprenant. Un, qu'elle a composé de la musique. Et deux, que cette musique porte sur comment elle se sent sur la plage, au soleil, avec les sons de marée, avec son ami Théo. Et c'est cette deuxième chose que je voulais dire par le fondement des symboles. Elle est capable de lier des notes, des concepts abstraits à des ressentiments dans le monde physique. Ce n'est plus juste des symboles, c'est fondé dans le monde réel. Et donc, sur les robots qui composent de la musique, on en est où? Je vous ferai écouter deux morceaux et essayer de chercher lequel a été composé par un humain et lequel par un logiciel. Ok, et le deuxième? Alors, lequel est le logiciel, pensez-vous? Ok. J'ai choisi des extraits difficiles. Alors, le premier est un logiciel créé en Espagne à l'université de Malaga. Le logiciel s'appelle IAMUS. Et le deuxième est par un compositeur américain de musique orchestrale contemporain qui s'appelle John Adams. Et donc, comment est-ce que ce logiciel marche? Bon, en fait, il faut savoir que ce logiciel, même qu'on essaie de le personnifier en lui donnant un nom, c'est un humain qui l'a programmé, Francisco Vico. C'est une personne qui s'y connaît bien en musique, qui a mis toutes ses connaissances dans ce logiciel. Pour chaque instrument, il définit tous les types de progressions qui vont bien, les accords. Et quand on lance le programme, il choisit, le programme choisit de manière aléatoire la séquence des notes en suivant ses contraintes. Donc, donc, on peut comprendre de cet exemple que IAMUS et son créateur a été déjà ce qui a été démontré par ce logiciel en fait a été déjà constaté par Ada Lovelace en 1840. C'est une mathématicienne qui est devenue la première programmeur du monde. Et elle a précisé que c'est bien le programmeur et non l'ordinateur qui possède l'intelligence, la créativité et d'autres attributs qu'on fait imiter aux machines. Et donc, on a vu un logiciel qui est programmé directement avec les connaissances d'un musicien. Mais depuis peu, il y a une autre manière de créer des logiciels créatifs. François Paché est directeur du laboratoire informatique de Sony ici à Paris. Il est un leader mondial dans la musique générée par les machines. Et son défi cette année était de créer un logiciel qui pouvait générer la chanson Ode to Joy, je ne connais pas le nom en français, le thème de l'Union européenne, mais dans n'importe quel style. Ah, l'hymne à la joie, merci. Et donc, comment ça marche? Rapidement, je vais vous expliquer. Eh bien, M. Paché n'a pas besoin de connaître toutes les règles de chaque style de bossa nova, le jazz, le classique. En fait, il suffit d'avoir plein d'exemples de morceaux pour chaque style, et voilà, 1000 exemples de musique de jazz, et le logiciel lui-même, il extrait des statistiques et patterns pour chaque style. Donc, par exemple...
Here we wanted to capture the statistics of correlations between notes horizontally, but also vertically and diagonally. We use...
Donc, qu'est-ce que ça donne?
We use the same approach to capture the style of jazz piano.
Voilà, la musique que vous venez d'entendre, c'était généré par un robot. Entendre celle-là. Il a pris plein d'exemples de musique de bossa nova et l'ordinateur a généré ça.
For bossa nova, we started from a set of audio recordings.
Et je vais vous donner un dernier.
Satisfies all the constraints of Ode to Joy. Now you can try to guess where these other orchestrations came from.
Voilà, pour résumer, il y a des IA créatives qui sont programmées directement par les humains. On les programme de la théorie, c'est comme si on allait dans une école pour apprendre de la théorie. Et ensuite, il y a des IA où on enseigne, on ne dit rien, sauf voici un dossier avec 3000 exemples de musique Bach, débrouille-toi et reviens vers moi quand tu pourras jouer comme Bach. Et ce type de technologie est aussi possible de mettre dans les robots. Voici un... de Georgia Tech aux États-Unis. Vous pouvez voir qu'ils ont même mis une tête qui bouge avec la musique, qui n'a aucune fonctionnalité entre guillemets, sauf rendre la performance plus agréable. Et il faut aussi savoir que la plupart des robots musicaux font de la percussion. Pourquoi? Ah oui, c'est peut-être une... C'est vrai. Il y a des robots au Japon qui jouent le saxophone et même la flûte traversière. Ah oui, avec de la vraie vent qui vient des... Mais je vais pas dire qu'ils sont mauvais, mais ils font pas des tours de l'Europe, alors que ce robot, il a vraiment donné des performances aux États-Unis. Alors, pourquoi est-ce que ce sont des robots à percussion qui sont un succès? Parce qu'ils sont précis, ils sont rapides, stables, impressionnants. La numérique leur va bien, la percussion. Mais pour le reste, comme au labo qui faisait des robots qui jouaient les instruments qui ressemblaient au violon ou la voix humaine, on avait un gros problème avec les robots. Oui, exactement. Oui, c'est la musique. Mais justement, la question, c'est est-ce que la perfection... et ce qu'on veut dans la musique, La perfection, est-ce que ça existe dans l'art en général? Pour dire qu'en fait, on s'est inspiré du travail de ce psychologue qui s'appelle Patrick Juslin. Il a proposé une théorie d'expressivité en 5 axes. Les plus intéressants, dont je vais juste vous montrer rapidement, c'est l'expression émotionnelle. Et le deuxième qui est intéressant, je trouve, c'est les variations aléatoires, parce que justement, les humains ne sont pas capables d'être hyper précis. Au final, ce que ça fait dans les robots, c'est on remet de l'erreur dans le timing des notes jouées par l'ordinateur. Et c'est pour ressembler à nous, les humains imparfaits. Et donc, si on fait ces deux choses, ben, les gens ils vont accepter, non? Peut-être pas. Même en 1930, on disait que la musique préenregistrée dans les cinémas, on est contre. Ils protestaient contre cette musique en disant que bientôt, le seul être vivant au cinéma va être la personne qui vous vend le billet. Ça va être drame préenregistré, la musique préenregistrée. Voilà, on ne le veut pas. Ils ont même donné un visage sinistre d'un robot pour eux. Et donc, les créations artificielles vont-elles être acceptées? S'il y a quelque chose à retenir, je pense, de cette partie sur la créativité, c'est que je pense que les chercheurs en créativité disent que la musique faite par ordinateur est quelque part vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que imaginez que cette œuvre, a été créé, si on dit qu'un œuvre d'art a été créée par un étudiant d'art de 21 ans, versus la même chose, mais en fait le créateur a été un meurtrier de masse, un meurtrier, ça se comprend, on voit l'art différemment, donc comme une machine. Donc une autre manière de voir ces créations technologiques, c'est peut-être de penser surtout pas comment ces technologies nous remplacent, mais comment est-ce qu'ils nous augmentent? Comment est-ce qu'ils rendent possible de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant? Je finis sur l'émotion de l'intelligence profonde, parce que c'est la question que je me suis posée pendant mon doctorat. C'est très court, parce que je pense que je pourrais encore faire 40, 50, 60 minutes dessus. Une machine, même s'il connaîtrait les termes tristesse et joie, avec des définitions qui sont écrites dans le dictionnaire, mais il ne sait pas exactement ce que ça veut dire vraiment, n'est-ce pas? Quand un robot écoute de la musique, il ne ressent rien. Alors que c'est vraiment un trait humain qui est là très tôt dans notre existence. Pour illustrer, voici une vidéo d'une dame aux États-Unis qui chantait à son enfant de 10 mois.
You want mommy to sing a song, honey? Let me know how you feel about the song, okay? I don't want you to come around here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is or how much it hurts me. Cause when you say it's over with her, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you.
Voilà, on est capable d'être ému par l'art et par la musique. Visiblement, depuis quand on est très très tôt. C'est la contagion émotionnelle, en fait. Donc, je n'ai pas le temps de rentrer en détail, mais juste pour vous dire qu'il y a tout un champ de recherche qui existe aujourd'hui, qui s'inspire de l'apprentissage des bébés. Ça s'appelle la robotique développementale, où des robots apprennent comme les enfants. Par exemple, en jouant avec leurs parents humains, un robot pourrait apprendre des correspondances entre les mots et le monde réel. Un ressenti d'un poids. Ce que fait un pomme quand on le jette à travers une chambre. Et même d'autres concepts peut-être, comme l'émotion. Voilà, donc je ne vais pas me lancer dessus, je vais finir. Donc on a regardé plein de choses, les définitions d'un robot, le phénomène de projeter les intentions fortes, même seulement sur l'apparence, le test de Turing et chambre chinoise qui nous fait demander si le comportement intelligent est suffisant pour l'intelligence, ou peut-être, comme dit Liane Kuhn, on a l'avion qui peut voler, pourquoi demander aussi de battre les ailes? Est-ce vraiment nécessaire? Et on a aussi vu les capacités d'ordinateur d'encapsuler les théories musicales pour reproduire le style des musiques avec des statistiques. Voilà. Donc, juste, je vous laisse avec les meilleurs robots comédiens que j'ai vus dans le monde. Ça a fait rire plein de gens. Je vous laisse cette vidéo qui vient d'une compétition l'année dernière. Merci beaucoup pour votre attention. Comme vous voulez, sinon on peut... Moi j'ai le temps, sinon on peut aussi circuler. Ceux qui veulent peuvent me poser des questions. Oui. Dans l'autre sens. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer avec nos smartphones, c'est qu'on a déjà, on devient plus, moins expressive. On voit, il y a une baisse dans les études, une baisse d'empathie qui arrive chaque année. Aux États-Unis, ils ont fait des études. Aujourd'hui, on est en train peut-être pas de se mettre des choses sur nos visages, mais c'est vrai qu'on perd un peu...
Aujourd'hui, dans ce que je faisais, le corollaire entre aujourd'hui, les robots ressemblent à ce qu'on ressemble. Donc en fait, aujourd'hui, on est déjà, comme l'a dit madame avec le smartphone, on est déjà conditionné, un peu comme des robots par rapport à ce qu'on ne nous rêve pas, mais on nous vend même.
Alors, échanger les uns les autres, c'est intéressant parce que c'est pas forcément ce que nous on est capable de faire à haute vitesse. Il faut qu'on fasse des conférences vraiment entre nous. Mais même aujourd'hui, on apprend plein de choses par YouTube. Hein. Est-ce que les robots ils vont pouvoir apprendre tout seul, je pense qu'il faut d'abord les humains qui les font faire ça. Alors, imaginons qu'on met notre smartphone à télécharger toutes les nouvelles applications qui sont sur l'Internet. Qu'est-ce qu'il fait ? Il change ses capacités, peut-être c'est une autre manière de dire qu'il apprend, n'est-ce pas? Donc,
C'est vrai que l'intelligence, c'est le seul apprentissage. Il y a un petit robot qui avait été sur Mars, là, qui a super parlé de trucs, hyper programmé, et puis tout d'un coup, il a buté sur un cahier
qui n'était pas attendu. Oui. 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 Oui.
Il y a des robots qui vont aider les gens handicapés. Donc, de toute façon, petit à petit aussi, on va commencer à avoir de l'affection, comme on a par exemple pour les chats. Il y a, au Moyen-Âge, les chats, il y a les humains n'avaient pas d'affection pour les chats. Aujourd'hui, grâce à Internet, les chats, c'est le roi du pétrole, quoi, je veux dire. Donc, peut-être que pour les robots, on aura peut-être suffisamment d'affection pour apprécier une œuvre d'art qui aurait été faite par un.
C'est vrai. Peut-être que ça va changer, effectivement. Oui.
C'est ça qui fait un artiste, c'est quelqu'un qui transgresse des règles établies.
Oui, oui.
Et puis il y a le hasard.
Exactement, oui.
En fait, moi je dis que dans quelques temps, dans une centaine d'années, quand on s'échangera des vidéos de robots rigolos sur Internet, en même temps on aimera peut-être les.
C'est une bonne remarque. Mais merci, c'est vrai. Alors, pour dire une chose, il y a des spécialistes dans la créativité et je ne suis pas, dans ce domaine-là, je ne suis pas la spécialiste. Mais la créativité, tout ce que j'ai lu pour l'instant là-dessus, c'est que justement, il y a une certaine partie de faire quelque chose de nouvel qui est apprécié par des gens. C'est un peu les deux facette que j'ai retenue. Ouais, mais aussi, on se pose la question, est-ce que la créativité, c'est aussi de faire des correspondances dans les choses qu'on a déjà vues. Parfois, on dit, ben, je mélange ça avec ça et je sors quelque chose de nouveau. Si un robot fait la même chose, ben, est-ce que c'est pas la créativité aussi? Si c'est bien comment nous, on marche, on ne sait pas comment on marche. Asimo, oui. Oui, j'ai travaillé avec Ashimo quand j'étais au Japon. Oui.
C'est la façon dont il marchait, c'était le premier comme un robot qui a signé à marcher comme un humain. Et bon, il était déguidé et il y avait ce que tu disais. Parce que du coup, le robot était très mécanique.
Oui, oui. Ben, on prend. On a aussi un certain niveau d'esthétique. On ne veut pas qu'un robot marche. Comme un Terminator aussi, ça nous fait peur, donc on essaie de faire entrer un peu. Oui. Alors il y a différentes manières d'apprendre à. Oui, il roule le pepper, c'est ça? Ou le pepper, il roule. Pourquoi? Parce que sa base lui permet d'avoir une très très grosse batterie qui dure 12 heures. Mais sinon, il aurait deux jambes parce que notre monde est créé pour les bipèdes. On a des escaliers. Oui, le Nao, il est capable de faire ça, effectivement.
Seul.
Ah oui, tout seul. Si vous voulez voir ça, je peux vous dire que donc je fais un peu de pub pour le documentaire sur les robots le 14 mars sur Planète Plus, si vous avez Canal Plus. Je gagne pas d'argent dessus, mais si ça vous intéresse, il y a plein d'autres sujets là-dedans. Bah si vous, je sais pas sur Twitter, si vous utilisez Twitter, sinon c'est sur Planète Plus et vous cherchez ce nom, ma vie avec un robot. Ah moi, oui c'est angelicalim.com, c'est mon nom. Mon prénom et mon nom.com. Voilà, vous trouvez tous les liens. Voilà. Merci beaucoup.